L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous. Avant une évocation de la personnalité du père Grégoire Krug, grand iconographe du XXe siècle, par le père Barsanuf de l'Ermitage du Saint-Esprit, je vous propose un entretien avec Jean-Claude Larcher sur la théologie de l'icône. D'origine française, il est un patrologue et théologien orthodoxe renommé qui a publié récemment aux éditions du CERF une remarquable théologie des énergies divines. Je me suis entretenu avec Jean-Claude Larcher sur un autre de ses livres, paru toujours au CERF, intitulé « L'iconographe et l'artiste ». Je lui ai demandé d'abord quel est le but principal de ce livre.
C'est un livre qui en fait rassemble un certain nombre d'études que j'avais déjà publiées, mais qui effectivement comporte aussi un certain nombre d'études inédites. Et le but principal du livre, comme l'indique le titre, est de montrer ce qui est la caractéristique spécifique d'une icône, ce qui va la différencier de toute autre représentation, de toute œuvre d'art. Et il y a une approche, je dirais, multiple de cette question dans le livre, puisque le livre commence par l'introduction que j'avais faite pour une exposition d'icônes qui avait été présentée à l'UNESCO et qui est une introduction très simple au monde de l'icône destinée à des gens qui ne savent rien sur l'icône. Donc c'est un quelques pages, une explication de ce que c'est une icône, de la fonction de l'icône dans l'Église, de ses principales caractéristiques. Et puis, les autres chapitres présentent des aspects différents. Alors, directement liés au sujet, par exemple, il y a, mais ce n'est pas la partie la plus importante du livre, une critique du grand livre, du livre très connu de Hans Belting, qui essaye de déconnecter l'icône de la théologie, et où je montre qu'il y a toujours une relation très intime entre l'icône et la foi de l'Église dans sa dimension dogmatique. Mais les principaux chapitres, je dirais, de ce livre consistent à montrer comment l'icône, à travers des moyens à la fois matériels et symboliques, à travers des formes et des couleurs, réussit à exprimer la dimension à la fois humaine et divine des personnes qui sont représentées ou des scènes qui sont représentées. C'est-à-dire que le Christ va être représenté dans sa double dimension humaine et divine, mais les saints vont être représentés aussi en tant qu'êtres humains divinisés. Et donc comment l'icône parvient à exprimer ce fait paradoxal qui consiste à représenter quelque chose qui n'appartient plus au domaine matériel, c'est ce que je tente de montrer. Je montre aussi comment à chaque fois l'icône est fidèle, quand il s'agit d'une icône traditionnelle, à la foi de l'Église, et c'est pourquoi j'ai consacré, outre un chapitre sur le temps dans l'icône et sur l'espace dans l'icône, qui montre la façon particulière qu'à l'icône de traiter le temps et de traiter l'espace, j'ai consacré un chapitre aux fausses icônes, c'est-à-dire à des icônes qui finalement ne sont pas fidèles à la foi orthodoxe, qui présentent des déformations de cette foi, qui représentent des personnages ou des scènes en n'étant pas en accord avec leur réalité historique ou avec leur réalité spirituelle. Parce que vous savez que l'icône aujourd'hui a un grand succès, donc il y a beaucoup de gens qui peignent des icônes sans avoir même la notion de ce qu'une icône implique sur le plan dogmatique. Il y a beaucoup de non-orthodoxes qui peignent des icônes et qui les peignent d'une façon telle que ces icônes peuvent paraître formellement être des icônes, mais n'en sont pas par leur contenu. Donc j'analyse un certain nombre de fausses icônes qui ont été réalisées à l'époque contemporaine, mais aussi des icônes qui traduisent des erreurs dogmatiques et qui ont été peintes en milieu orthodoxe. Par exemple, en Russie, au XIXe siècle, je montre pourquoi une icône très célèbre comme l'œil de Dieu n'est pas une vraie icône. Je montre aussi pourquoi l'icône de la Sainte Sagesse est une icône qui n'est pas une icône orthodoxe. Et j'analyse ainsi un certain nombre d'icônes qui existent même dans les pays orthodoxes depuis le XVIe siècle, comme par exemple l'icône de la paternité qui représente Dieu le Père, ce qui est une représentation impossible selon les principes de l'iconographie orthodoxe, où le Christ, par exemple, sous la forme d'un ange avec des ailes, qui était une icône très répandue en Russie, et je montre pourquoi, finalement, toutes ces icônes ne sont pas acceptables et quelles erreurs elles comportent. Ou par exemple, l'icône très répandue de la Sainte Famille que l'on trouve aujourd'hui, qui, à l'origine, a été composée en milieu catholique, mais qui est maintenant très répandue en Grèce. Je montre pourquoi cette icône est une icône qui n'est pas correcte sur le plan dogmatique et quel risque même sur le plan spirituel cette icône véhicule pour ceux qui en feraient un usage dans le cadre de leur prière.
La vraie icône doit exprimer la vraie théologie orthodoxe et ces images, comme par exemple l'image de Dieu le Père en tant que vieillard barbu, ont fait beaucoup de mal à travers les siècles et ont contribué au fait que de nombreux gens ont perdu la foi, notamment en Occident, mais aussi dans les pays orthodoxes, des images qui, importées d'Occident, ont fait une certaine carrière dans le milieu iconographique orthodoxe.
Oui, il y a eu une décadence tout à fait considérable de l'iconographie orthodoxe, on peut dire, à partir de la fin déjà du XVIe siècle. Il y a eu une occidentalisation progressive, une influence de la peinture italienne, notamment sur l'art iconographique, qui en a déformé complètement le sens et le contenu. Et heureusement, il y a eu vraiment une résurrection de l'icône au XXe siècle, grâce à des personnalités comme en Grèce Photios Kontoglou, qui a vraiment transformé complètement l'iconographie grecque par son influence, Léonide Ouspensky en France, qui a eu une influence considérable dans tous les pays orthodoxes, y compris aussi en Grèce et bien entendu en Russie. Et il y a maintenant, dans tous les pays orthodoxes, des écoles iconographiques qui ont fait un retour aux sources les plus pures de l'iconographie, parfois d'une manière un peu formelle et un peu technique, mais bon, je dirais que le mouvement a été très largement amorcé, et parmi tous les iconographes qui ont été formés à cette école traditionnelle, il y a évidemment des personnes qui se détachent et qui produisent des icônes plus vivantes, moins techniques, moins formelles. Et on peut voir dans la plupart des églises nouvelles construites maintenant dans les pays de l'Est, des fresques qui sont vraiment d'une très grande qualité. Et au Mont Athos aussi, on a construit de nouvelles églises, on a restauré des icônes anciennes, et on a vraiment des icônes qui sont des icônes authentiquement orthodoxes et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, remplissent leur mission, qui est d'exprimer, comme le disait le concile de Nicée II, qui a réhabilité par rapport aux iconoclastes l'iconographie orthodoxe, qui exprime avec des formes et des couleurs ce que l'évangile et les textes patristiques expriment par des mots.
Et Jean-Claude Larcher, je pense que le fait que de nombreux catholiques et même des protestants s'intéressent à l'iconographie, commencent à écrire des icônes eux-mêmes, à étudier l'iconographie, c'est un fait positif en soi. L'important, c'est qu'ils commencent à s'intéresser aussi véritablement à la théologie de l'icône, de connaître aussi la théologie qui est exprimée par l'icône.
Tout à fait, c'est le principal but que je poursuis dans ce livre, justement, c'est de montrer comment l'icône est reliée à un contexte de foi, à un contexte dogmatique, mais aussi à un contexte ecclésiologique, c'est-à-dire qu'on trouve aussi maintenant dans beaucoup de temples protestants ou d'églises catholiques des icônes, mais qui n'y occupent pas du tout la même place que dans les églises orthodoxes. L'icône fait l'objet d'une vénération dans un contexte liturgique particulier, et ça n'est pas un simple objet de décoration, c'est quelque chose qui exprime des personnes dans leur dimension spirituelle, celle qu'elles ont atteinte dans leur royaume, qui communique une grâce. On doit vénérer l'icône d'une manière particulière, on en reçoit une grâce, et donc ça ne doit pas être traité comme une autre représentation religieuse quelconque ou comme un objet d'art quelconque. C'est quelque chose qui doit être contextualisé à la fois sur le plan ecclésiologique, sur le plan liturgique, sur le plan spirituel. Et je montre aussi que l'icône est inséparable de ses bases dogmatiques, c'est-à-dire que l'icône exprime la foi de l'Église, donc elle doit toujours être absolument fidèle à cette foi. Et si quelqu'un peint une icône en étant dans l'ignorance de la foi de l'Église ou en ne menant pas lui-même une vie dans l'Église où il vit cette foi, alors l'icône qu'il peint n'est pas une vraie icône. Il faut rappeler qu'un iconographe est quelqu'un qui n'est pas un artiste qui est soumis à son imagination, mais quelqu'un qui exerce un service dans l'Église, qui doit non seulement adhérer pleinement et fidèlement à la foi de l'Église, mais qui doit mener une vie spirituelle conformément à cette foi. Il est de tradition que les iconographes pratiquent leur art en priant, mais aussi en jeûnant, en s'étant confessés, en communiant régulièrement, c'est-à-dire que l'art iconographique est en fait une des formes du service, du diaconat dans l'Église et qui est lié à tout le contexte de la vie ecclésiale et de la vie spirituelle personnelle. Il y a un chapitre où je montre comment, dans l'art iconographique, on peut être à la fois en parfaite conformité à la tradition et développer des traits originaux, parfaitement compatibles avec la tradition, comme ça a été le cas, par exemple, du grand iconographe, le père Grégoire Krug, à qui un colloque avait été consacré à la Sorbonne auquel j'avais participé. Et ce texte reprend la communication que j'avais présentée sur tradition et créativité dans l'art iconographique. Parce que c'est un sujet un peu brûlant, on dit parfois l'icône, voilà, c'est un art stéréotypé qui ne reproduit que des formes, il n'y a pas de création, et je montre au contraire comment il est possible, tout en étant parfaitement inséré dans la tradition, tout en produisant un art parfaitement traditionnel, de présenter à chaque fois certains caractères nouveaux, et en tout cas qui traduisent la foi de l'Église d'une manière qui répond aux besoins d'une époque, tout en étant parfaitement fidèle au contenu de cette foi.
Né en 1908 à Saint-Pétersbourg d'un père suédois protestant et une mère russe orthodoxe, et installé en 1931 à Paris, Georges Krug est devenu moine en 1948 sous le nom de Grégoire. Grand iconographe, le père Grégoire Krug a réalisé, ensemble avec son illustre ami iconologue Léonid Ouspensky, les fresques de la cathédrale russe des 300 docteurs, rue Pétel, dans le 15e arrondissement de Paris. Mais le couronnement de l'œuvre du père Grégoire est l'église du Skit du Saint-Esprit, où il a vécu en moine, un petit ermitage russe situé dans la forêt de Rambouillet, à Ménil-Saint-Denis, dans les Yvelines. C'est ici que, jusqu'à sa mort en 1969, il a été accompagné pendant 6 ans par le père Barsanuf, un Français devenu moine orthodoxe au Skit. Un jour pluvieux, je me suis abrité dans le baptistère ensemble avec le père Barsanuf, aujourd'hui le supérieur ou higoumène du Skit, qui m'a esquissé un portrait riche en couleurs du grand iconographe. Je lui ai d'abord demandé comment il a rencontré le père Grégoire Krug.
La première rencontre que j'ai faite dans l'orthodoxie en France, ça a été la rencontre du métropolite Antoine Blum, le métropolite Antoine de Souroges, qui était l'évêque d'Angleterre, mais qui avait la charge d'exarque pour tous les pays d'Europe occidentale. À ce titre, il venait souvent en France, et c'est là que je l'ai rencontré à Paris, et moi je l'ai pris comme mon père spirituel. C'est lui qui m'a reçu comme moine dans l'église orthodoxe russe, à laquelle il appartenait. C'était en 1964, et à cette époque-là, le seul lieu proprement monastique qu'il y avait dans la juridiction du patriarcat de Moscou, c'était le Skit du Saint-Esprit, où vivait le père Grégoire Krug, sous la paternité spirituelle du père archimandrite Serge Chevitch. Donc le métropolite Antoine a reçu mes vœux monastiques et il m'a confié à la direction ou au supériorat, si on peut dire, du père archimandrite Serge, et j'ai été reçu au Skit où vivait déjà le père Grégoire depuis 1948. Il avait déjà commencé à décorer l'église du Skit de fresques, avait déjà fait l'iconostase, etc. Beaucoup de travaux étaient déjà faits. Et ensuite, j'ai été mis au Skit, en partie aussi pour veiller sur le père Grégoire, veiller à ce qu'il prenne les médicaments qu'il devait prendre parce qu'il avait 5 maladies très graves. Et alors, il était tellement détaché des biens de ce monde et des contingences matérielles que finalement, ou bien il ne prenait pas les médicaments qu'il devait prendre, ou bien alors il les prenait tous ensemble le matin, alors que ça aurait dû être réparti au long de la journée. Et alors j'étais chargé au début de veiller à ce que le père Grégoire prenne les médicaments qu'il devait prendre, aux heures où il devait les prendre, etc. Et puis alors, évidemment, comme le père Grégoire passait tout son temps à peindre, alors j'étais chargé aussi de faire la cuisine, de m'occuper du chauffage, etc. Enfin bref, de faire fonctionner le ski sans que le père Grégoire ait à s'en occuper. Alors, ce qui avait de particulier avec le père Grégoire, c'est qu'il ne voulait absolument pas faire figure de maître d'icône, absolument pas. Il ne voulait surtout pas enseigner, mais il ne voulait pas non plus se donner en exemple ou faire en sorte qu'on puisse le prendre comme modèle, même au point de vue de la peinture d'icône. Et alors, quand on venait le voir et qu'il était en train de peindre, il s'arrêtait de peindre et puis il parlait jusqu'à ce qu'on s'en aille, carrément. Et quand on partait, alors il se remettait à peindre, mais il ne voulait pas peindre en présence de quelqu'un, il ne voulait pas qu'on le regarde en train de peindre. Alors, quelquefois, ça a posé des problèmes, parce qu'on demandait au père Grégoire de faire des peintures pour des églises ou des lieux avec des moines et des moniales, comme Moissenet, etc., Montgeron, des endroits comme ça. Et alors, il y allait, il prenait le train, et puis il y allait. Et alors, moi, je l'accompagnais, parce que quelquefois, il prenait le train pour une direction, et puis il arrivait à une toute autre direction, parce qu'il était tellement détaché des contingences matérielles. Par exemple, il devait revenir de Paris, plus exactement devant, au skit. Et alors, la gare à laquelle on doit descendre pour venir à pied ensuite de la gare jusqu'au skit, c'est-à-dire il y a quand même une bonne demi-heure à pied ensuite à partir de la gare, c'est la gare de Coignières. Et alors par distraction, je crois, mais alors la distraction de celui qui est vraiment perdu en Dieu, perdu dans la prière, perdu dans son œuvre liturgique, parce que la peinture d'icône n'est pas une œuvre artistique, c'est une œuvre liturgique. Et alors l'anecdote, c'est qu'une fois qu'il devait revenir à Paris, au lieu de prendre un billet pour Coignières, il a pris un billet pour Tacoignières, qui se trouve tout à fait à l'autre bout du département, c'est aussi dans les Yvelines, mais tout à fait dans le nord des Yvelines. Et alors là, il s'est retrouvé complètement perdu, il a fallu qu'il appelle, n'est-ce pas, au téléphone, et qu'on le guide et qu'on aille le chercher, etc. C'est pour dire que j'étais un petit peu chargé de l'accompagner jusqu'au lieu où il devait peindre ses icônes. Et alors là, il s'installait avec tout son matériel dans l'église qu'il devait décorer. Et puis, il attendait que je m'en aille avant de commencer. Il parlait. Il ne se mettait pas au travail jusqu'à ce que je sois reparti, soit retourné à la gare, repris le train pour revenir ici. Et lui, il restait là-bas. Il était hébergé, etc. Et après, je retournais le chercher. À cette époque-là, il n'y avait que la partie centrale de l'église du skit et les deux églises latérales. Ce sont les églises que le père Grégoire lui-même a fait construire avant même que j'arrive au skit. C'était déjà construit quand je suis arrivé au skit. Mais il n'y avait pas le narthex, il n'y avait pas le sanctuaire, il n'y avait pas le clocher. Tout ça, je l'ai fait construire ensuite, petit à petit, après la mort du père Grégoire. Exactement comme le fial où nous nous trouvons maintenant, c'est-à-dire le baptistère, le lieu où il y a la fontaine d'ablution. Dans tous les monastères orthodoxes, par exemple du Mont Athos, il y a toujours un fial. Eh bien, ici, nous nous trouvons dans un fial, ce qui est théoriquement le lieu où les moines viennent faire leurs ablutions après le travail, avant d'aller à l'église ou au réfectoire. Mais ici, évidemment, nous sommes tellement peu nombreux qu'il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de vie commune comme dans les monastères cénobitiques du Mont Athos. Mais c'est un lieu qui a tout de même servi plusieurs fois à ce que nous fassions des baptêmes, bien que, effectivement, le fait de faire des baptêmes soit quelque chose d'exceptionnel dans un monastère orthodoxe. D'après les usages, on ne fait pas de baptême dans un monastère. Mais ici, on a fait plusieurs baptêmes parce que dans les migrations, il y a tellement peu de lieux de culte, trop peu. Et alors, à cause de ça, eh bien, il y a tout un groupe de fidèles qui viennent au monastère comme à une paroisse. Mais évidemment, ça n'est pas une paroisse, mais ils viennent suivre les offices régulièrement. Et alors, ces fidèles, quand ils ont besoin de faire baptiser un enfant ou même quand il y a un nouveau venu qui a besoin d'être baptisé, eh bien, nous le baptisons dans le fial.
Père Igoumène Barsanuf, quel est le meilleur souvenir que vous avez de Père Grégoire Crook?
Le meilleur souvenir que j'ai du Père Grégoire Crook, c'est son humour. Il avait un humour extrêmement pointu, extrêmement pince sans rire. C'était un humour tout à fait pur. Il ne cherchait pas du tout à faire rire, absolument pas. C'était un humour intérieur qu'il fallait percevoir si on avait soi-même le sens de l'humour. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que ce n'était pas du tout la rigolade. On ne riait pratiquement jamais avec Père Grégoire. Il avait un petit rire comme ça, qui était plutôt de l'ouverture aux gens. Vous voyez, il riait un petit peu pour être ouvert aux gens, pour accueillir les gens, pour les recevoir, mais pas du tout parce qu'il était secoué par la rigolade, n'est-ce pas, de quelque chose de comique. Je ne veux pas vous raconter des anecdotes qui illustrent ce sens de l'humour. Il se trouve que nous avons publié un album de reproduction de beaucoup d'œuvres du Père Grégoire, et alors dans l'introduction de cet album, je raconte un petit peu certains exemples de ce dont je parle, mais je ne veux pas maintenant prendre du temps d'antenne simplement pour raconter des anecdotes. Mais en tout cas, voilà le meilleur souvenir que j'ai gardé. Et puis alors, sur le plan purement spirituel, mais alors cette fois-ci spirituel au sens de la spiritualité, de l'esprit, ce qui m'a beaucoup frappé chez Père Grégoire, c'est son détachement. J'ai beaucoup appris. En 64, j'étais très jeune quand je suis arrivé au skit. J'ai beaucoup appris du Père Grégoire, beaucoup appris sur la vie monastique, alors qu'il ne menait pas du tout une vie monastique cénobitique. Ce n'était pas du tout une règle, ce n'était pas du tout un horaire, ce n'était pas du tout tout ça, mais c'était l'esprit profondément. Et alors, moi-même qui étais attiré par les Pères du Désert, qui étais attiré par les apophthegmes, justement, des premiers moines, eh bien, j'ai trouvé dans le Père Grégoire, justement, perdu dans un coin de la forêt de Rambouillet, dans un coin de bois, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, nous sommes dans les bois, eh bien, j'ai découvert le monachisme orthodoxe tel que je l'avais rencontré dans les pays orthodoxes, en voyageant en Serbie, en Grèce, dans des pays comme ça. Eh bien, j'ai retrouvé l'authenticité du monachisme orthodoxe et ça m'a beaucoup apporté parce que c'est un monachisme vécu et sans aucune ostentation, sans chercher du tout à enseigner quoi que ce soit, mais simplement par le fait de vivre au simple contact, eh bien, on apprend et on progresse malgré soi sans s'en rendre compte. Et ça, c'est peut-être le meilleur souvenir que j'ai gardé du Père Grégoire.
On dit que le Père Grégoire est une personne caractérisée par une grande liberté, malgré le fait qu'il était un moine.
Justement, c'est pour ça que je parle de son détachement. Parce que cette liberté, elle se manifeste extérieurement par ce détachement. Il était totalement détaché des convenances, totalement détaché de son apparence. Il était toujours habillé en moine. Je ne l'ai jamais vu habillé autrement qu'en moine. Jamais. Pendant, nous avons vécu quand même demi-douzaine d'années ensemble, eh bien, il a toujours été habillé en moine, même quand il était le plus malade. Et il a été enterré avec son habit monastique. Mais son habit monastique lui servait d'essuie-main. Il faisait sa peinture, il s'essuyait les mains sur son habit monastique. Un habit monastique, normalement, il est noir, n'est-ce pas ? En signe de renoncement, précisément. Eh bien, lui, il avait un habit monastique de toutes les couleurs, complètement polychrome, parce qu'il s'essuyait les mains au fur et à mesure, au lieu d'aller chercher un chiffon, eh bien, ou alors il essuyait ses mains dans ses cheveux. Il avait les cheveux longs, il n'avait pas beaucoup de cheveux, c'était pas très épais, mais en fait, il avait les cheveux longs sur les épaules, comme vous pouvez le voir sur les photos, que vous voyez partout, maintenant sur Internet, tout le monde connaît ça. Eh bien, il avait les cheveux comme ça, filasse sur les épaules, il essuyait ses mains dans ses cheveux, et alors, ses cheveux avaient toutes les couleurs. Certaines zones étaient roses, rouges, un petit peu, enfin, toutes les couleurs. Et ça, quand on le rencontrait pour la première fois, c'était très frappant parce que ça avait quelque chose d'étrange quand même. Et lui, il ne cherchait pas du tout à être étrange. Il était dans son art. Il était totalement détaché des conventions. Il ne s'occupait pas du tout du qu'en dira-t-on, ni de son image, comme on dit maintenant. Mais ça transparaissait dans son apparence lui-même. C'est à douter que lui-même se rendait compte de l'aspect qu'il avait aux yeux des gens qui l'approchaient. Mais effectivement, il était extrêmement inattendu. Surprenant parce qu'on ne s'imagine pas un moine comme ça, même un padre d'icône. Eh bien lui, il se présentait comme ça, il était toujours aussi accueillant, il était toujours prêt à s'interrompre dans son travail pour accueillir celui qui venait frapper chez lui, et alors il se présentait comme il était, tout simplement, sans aucune affectation. Alors évidemment, peut-être que pour la liturgie, il mettait quand même une riassa, ou alors il mettait la mantia, parce qu'il respectait, n'est-ce pas, les règles pour la communion. Les moines mettent la mantia, le klobouk, mais il avait son klobouk à côté du klyros. Ça, c'est le vocabulaire pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas, la liturgie orthodoxe. Le klyros, c'est-à-dire le cœur, n'est-ce pas, là où on chante. Il avait son klobouk à côté de là où on chante, et il ne le mettait que pour la communion, parce que pour la communion, on doit mettre son klobouk, mais le reste du temps, il ne le mettait pas. Je précise que le klobouk, c'est la coiffe monastique, n'est-ce pas, la coiffe cylindrique, avec un voile dans le dos, n'est-ce pas, qui est propre aux moines. On ne peut porter cette coiffe que si on est moine. Alors lui, il avait ça, et il ne le mettait que pour la communion. Voilà un exemple.
Père Igoumène Barsanuf, depuis le départ vers le Seigneur du Père Grégoire Krug, vous avez continué la présence monastique ici, au site de Saint-Esprit, et vous avez continué jusqu'à aujourd'hui à préserver sa mémoire. Quelle est, selon vous, sa contribution à la redécouverte de l'iconographie orthodoxe véritable? Et parlez-nous un petit peu aussi de sa valeur en tant qu'iconographe orthodoxe à Paris et en France.
La valeur du Père Grégoire, ça a été sa fidélité absolue au canon de la peinture byzantine. Il était un grand connaisseur de la théorie de la peinture. Il possédait des ouvrages en russe sur les règles très anciennes qu'un peintre d'icône doit respecter. Vous savez que pour peindre une icône, normalement, dans la tradition iconographique byzantine de l'Église russe, c'est de prendre un modèle, et de préférence même, il est recommandé de prendre au moins deux modèles. Si on veut peindre l'icône d'une fête, par exemple, eh bien, on prend un modèle de l'icône d'une fête, et si possible, on en prend plusieurs. On en prend deux ou on en prend trois, et pour peindre une icône, on s'inspire des deux ou trois modèles qui existent déjà, et autant que possible, des modèles anciens, et on s'inspire de ces modèles anciens. Et on en prend deux ou trois pour que ce ne soit pas la copie servile, trop fidèle d'une icône, n'est-ce pas, qui serait comme une sorte de clone de l'icône, comme si c'était une reproduction facsimilée. Ça n'est jamais ça. Alors, le Père Grégoire lui prenait plusieurs modèles. Il s'inspirait un petit peu pour certains détails d'une icône, pour d'autres détails du même modèle d'une troisième icône. Mais ça, c'est ce que tous les peintres d'icônes devraient faire normalement. Ce n'était pas du tout particulier pour lui. Alors, ce qui est particulier, c'est que lui, il était fidèle à cette façon de procéder. Et en même temps, il avait une grande liberté, il avait un grand métier, il était un artiste peintre avant de faire des icônes, il avait un grand métier, et alors il apportait sa connaissance de la couleur, sa connaissance de la peinture, sa connaissance de la peinture moderne même. Il avait travaillé avec certains peintres modernes, n'est-ce pas, comme Goncharova, par exemple, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, Lissitsky, etc., plusieurs comme ça, qui n'ont absolument rien à voir avec la peinture d'icônes, qui sont presque des peintres abstraits, bien que le Père Grégoire n'était pas du tout sensible à la peinture abstraite. Il n'aimait pas du tout la peinture abstraite, il considérait ça un petit peu comme une sorte d'iconoclastie, en quelque sorte. Ce avec quoi je n'étais pas moi-même d'accord du tout, parce que ça nous ferme toute une partie de la culture. Mais l'apport du Père Grégoire à la peinture du XXe siècle, la peinture d'icônes, c'est une grande fidélité au canon de l'ancienne peinture byzantine, sans aucune concession à la peinture qu'on appelle de style italien, c'est-à-dire d'inspiration occidentale, Raphaël, etc., qui sont des très bons peintres, mais qui ne sont pas des peintres d'icônes, une grande fidélité à la peinture proprement byzantine, et en même temps, une grande liberté qui vient de la possession de son métier, tellement que, dans le cadre de la fidélité exacte au canon, il pouvait improviser au niveau de la forme, au niveau de la matière, au niveau des lumières, sans que ça touche ni à la composition, ni en général au canon, par exemple, des couleurs qui sont imposées pour tel ou tel sujet. Et il respectait tout ça parfaitement. Donc, après une période où, en Russie principalement, puisque nous appartenons à l'Église russe, une longue période, plusieurs siècles, en Russie, la peinture byzantine a été proscrite, la peinture de style italien a été imposée par diktat de l'empereur, ceux qui peignaient de la peinture byzantine étaient condamnés, carrément, étant envoyés en Sibérie, eh bien, le Père Grégoire est revenu à la peinture proprement byzantine, la peinture des origines. Il est revenu à l'époque de Saint-André Roblov, de Manuel Pansellinos, etc., les plus grands peintres d'icônes. Il a repris cette tradition et en même temps, il lui a donné une forme typiquement, caractéristiquement du XXe siècle.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra et Saint-Antoine le Grand et la chorale Saint-Jean Damascène de Paris. Cette émission a été produite avec l'aide de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Vous pouvez réécouter l'émission sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.